Nous avons commencé une toute petite série et on va terminer aujourd'hui sur Noël, vu dans trois aspects, l'aspect de la foi, l'aspect de l'espérance. Vous vous souvenez que c'était à partir du verset de 1 Corinthiens 13 qui disait que après que tout soit dit et terminé, il reste trois choses qui demeurent. C'est donc dans 1 Corinthiens 13, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et il ajoutait, mais la plus grande, c'est l'amour. Et on a vu que dans Noël, dans l'histoire de Noël, on pouvait voir des exemples de foi. Par exemple, en Zacharie, nous avons parlé de Zacharie, son incrédulité d'abord à accepter l'annonce que sa femme, par l'ange, que sa femme allait avoir un enfant malgré son âge avancé, leur âge avancé. Et puis que lorsqu'il se met à croire, à ce moment-là, la parole qui lui avait été retirée lui revient. Pour nous, c'est un exemple de lorsque nous avons la foi, nous devons parler. Nous n'avons plus à être muets, nous avons quelque chose à dire au monde. Souvent, lorsqu'on demande aux gens s'ils ont quelque chose à dire, un sujet de prière, c'est le silence. Mais lorsqu'on a la foi en Dieu, en Jésus-Christ, lorsqu'on met notre confiance en lui, alors on a toutes les raisons du monde de ne plus se taire et de parler. Et puis nous avons vu aussi l'espérance dans Noël, dans le personnage de Siméon, qui après avoir vu l'enfant Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, qu'il attendait, il est plein de cette espérance qui est satisfaite. Encore une fois, l'espérance, dans le vocabulaire chrétien, c'est pas une possibilité qui serait bienvenue si jamais ça pouvait se passer. Comme aujourd'hui, on a l'espoir de gagner au loto quand on prend un ticket. Non, ça c'est des lois, des probabilités, ça n'a rien à voir avec l'espérance. L'espérance, c'est l'assurance d'un bien futur qui va arriver. Et Siméon, il avait cette espérance et il l'a vu se réaliser. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème, cette dernière chose, de l'amour dans le message de Noël. Et on se sent déjà un peu démuni, un peu léger, un peu faible pour parler de ce sujet de l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour qui est tellement, ce terme qui est tellement galvaudé. Galvaudé, c'est-à-dire qu'il est utilisé en vain, qu'il est mis à toutes les sauces, notamment dans les chants, dans les chansons d'amour. Et ce thème, il est magnifique et je me sens vraiment démuni devant le thème. Et puis, pour parler de ce thème de l'amour dans Noël, on va aller voir Jean 3,16. Décidément, parler de l'amour avec Jean 3,16... Qu'est-ce qui m'a pris? En fait, c'est à la suite d'un exemple que j'ai vu d'un ami pasteur qui a parlé de ces trois thèmes à l'occasion de Noël pour rafraîchir un peu le sujet. On peut parler bien sûr des bergers, mais donc on va se tourner vers Jean 3,16 aujourd'hui. Mais juste avant, c'est toujours intéressant lorsque dans les mariages, on a l'occasion de parler de l'amour à partir du texte de 1 Corinthiens 13. C'est toujours intéressant d'expliquer aux non-croyants, à ceux qui n'ont pas de connaissance de la Bible, qu'en fait le mot « amour », si en français il regroupe un seul mot, ou il est souvent recouvert par un seul mot, en fait dans la Bible, dans le langage d'origine du Nouveau Testament, le langage grec, qui était le langage commun à l'époque, il y a plusieurs mots pour décrire l'amour. Et aujourd'hui, on pourrait dire, on utilise le mot aimer comme il aime la glace à la vanille, il aime ses enfants, il aime Dieu, il aime sa patrie, il aime le couscous royal. Ça, le même mot est utilisé pour recouvrir des choses complètement différentes. Dans le Nouveau Testament, il y a quatre mots. Le premier, c'est le mot en grec « storgeo » qui désigne l'amour filial, l'amour qui doit régner normalement dans une famille, entre les membres d'une famille. « Je t'aime parce que nous sommes dans la même famille. » Et ce qui est bien pour toi est bien pour moi parce que nous sommes reliés dans cette famille. Et il est utilisé seulement de façon négative dans Romains pour dire que les gens dans le péché ont même perdu cet amour qui devrait être l'amour naturel entre les membres d'une famille. Et souvent, c'est une des choses les plus douloureuses, c'est de voir qu'au sein d'une même famille, il n'y a pas cet amour qui devrait être naturel. Ça, c'est un premier terme. Et puis, il y a un mot qui est souvent le mot tel que Hollywood, où les marchands de cadeaux le voient, c'est l'amour qui est l'amour physique, l'amour érotique, le mot Eros, le dieu grec de l'amour. C'est un mot dont il n'est pas question dans la Bible directement, mais en même temps c'est un mot qui a remplacé le sens, bien souvent le sens du mot amour dans notre monde actuel. Et cet amour, c'est un amour merveilleux quand il est exercé dans le cadre du mariage. La sexualité, l'amour érotique, c'est quelque chose que Dieu offre en cadeau, et je crois juste pour nous donner un avant-goût d'une relation d'éternité, de fusion intime avec lui. Il n'y a rien de mal dans cet amour, sauf qu'il est souvent détourné par l'ennemi, par Satan, qui en fait une chose laide, une chose faite d'exploitation de l'autre, d'amour égoïste. Mais ça ne doit pas être le cas. Il y a un autre mot, c'est... Donc l'amour érotique, on pourrait dire « Je t'aime pour ce que tu me procures, pour le bien-être que tu me procures. » Il est très égoïste, l'amour érotique, tel que le monde le vit. Un autre mot, c'est le mot « philéo », et c'est l'amour, la camaraderie, l'amour amitié. C'est « je t'aime parce que j'aime bien être avec toi, pour les choses que nous faisons ensemble, pour le plaisir que j'ai à être avec toi ». C'est un très bel amour, c'est une camaraderie, c'est être bien, savoir un bon copain, quelqu'un de fidèle, c'est cet amour. Et puis il y a ce mot qui n'était pratiquement pas utilisé en grec jusqu'à ce que les auteurs du Nouveau Testament se mettent à l'utiliser, l'amour agapé. Et l'amour agapé, c'est l'amour qui ne s'occupe pas de la réponse de l'autre. C'est un amour qui est donné à sens unique, ou du moins qui est prêt à être donné à sens unique. Je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer, même si tu me rends la vie impossible, même si tu me détestes en retour, je t'aime, et je t'aime d'une façon sacrificielle. Et ça, c'est l'amour agapé qui vient de Dieu. C'est un amour venu d'ailleurs. Il y a quelques années, il y avait une boisson, Ginny qui s'appelait, je crois, la publicité, c'était un goût venu d'ailleurs. Et l'amour agapé, c'est la même chose. C'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Paul, dans Romains, dit que cet amour agapé, il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la chose qui s'en rapproche peut-être le plus sur notre terre aujourd'hui, c'est l'amour d'une maman pour son enfant. L'amour d'une maman pour son bébé. Je vois Maria et avec David derrière, vous ne la voyez pas, ne vous retournez pas. Mais c'est cet amour qui est le plus proche de l'amour de Dieu pour nous. Même si David l'a tenu éveillé toute la nuit, même si par moments elle a voulu le lancer au bout de la pièce, elle l'aime, elle est prête à mourir pour lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on l'a présenté au Seigneur, elle ne le lâchait pas des yeux et elle avait même du mal à ne pas le tenir avec sa main. Et c'est une très belle image de l'amour de Dieu qui nous aime. Mais on va lire ce verset. Alors, aujourd'hui, je fais dans le commun, en quelque sorte, mais par la grâce de Dieu, vous allez en retirer quelque chose et vous allez pouvoir le mettre en pratique, être encouragé. Jean 3,16. On a dit que souvent, c'est intéressant de voir qu'il y a dans verset 16 du troisième chapitre de plusieurs livres du Nouveau Testament et même de l'Ancien Testament, il y a des versets qui vous interpellent, qui sont assez profonds, qui vous font réfléchir. Et bien sûr, Jean 3,16, c'est le plus célèbre d'entre eux. Je me souviens même que lorsque j'étais enfant, que nous venions avec mes parents en voiture, il y avait sur certains bâtiments dans le centre de la France, il y avait ce verset peint sur une vieille grange, Jean 3,16. Et je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que c'était dans la Bible, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'était des gens qui voulaient interpeller les automobilistes avec ce verset. Et puis, dans les stades de foot maintenant, dans les rencontres internationales, il y a souvent quelqu'un qui se promène avec un panneau qui essaye d'être vu à la télévision qui dit Jean 3,16. Et il y a quelques années, on avait un groupe de jeunes composé de juste quelques enfants avec Rain, pour ceux qui l'ont connu, il y avait Tonio, Sébastien et d'autres, Mélisse. Et leur grand projet, c'était pour le Festival de Cannes. Ils allaient avec un panneau Jean 3,16 et ils essayaient de se faire voir avec le groupe de Canal+. Une fois, on les avait vus avec Jean 3,16. Ah. Mais c'est pas le tout de connaître l'adresse, il faut savoir le contenu. Et la plupart des gens ne connaissent pas. On va le relire. C'est sans doute un verset. Si vous connaissez un verset dans la Bible par cœur, c'est sans doute celui-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand est-ce qu'il a donné son Fils? Il l'a donné à Noël. Il l'a envoyé sur terre, et on va voir pourquoi. Vous savez pourquoi sans doute. Nous avons le privilège, la chance, entre guillemets, d'avoir quatre récits de la vie de Jésus lors de son incarnation, de son sacrifice, de la croix, de sa résurrection. Et ce sont des récits qui sont décrits de points de vue différents et en même temps donnent donc une grande richesse et nous permettent d'avoir une meilleure description des choses, une meilleure connaissance de ce qui s'est passé. Un peu comme quand vous voulez avoir des nouvelles sur ce qui se passe quelque part dans le monde, vous allez peut-être aller voir maintenant avec Internet, c'est très facile, voir ce que disent les journaux américains, ce que disent la presse locale, ce que dit France Info, ce que dit Libération. Avoir plusieurs précis d'un même événement permet d'en saisir une plus grande richesse, plus de détails, plus d'aspects. Et Luc, dont on a lu le récit, c'était comme Matthieu, c'était un peu comme des commentateurs qui décrivent beaucoup de détails. L'évangile de Matthieu, c'est le plus gros, l'évangile de Luc, c'est le second plus gros. En détail, en précision, l'évangile de Luc, il est formidable parce qu'il nous donne des précisions historiques qui ont été vérifiées par l'histoire, par la science, les sciences historiques, même encore récemment. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça nous permet de dire que ces détails historiques qui sont incorporés dans le texte sont véridiques. Et on a toute raison de penser que les autres informations qui sont dans le texte de nature spirituelle sont tout aussi vraies. Donc l'histoire, c'est pas quelque chose à dire, oh, c'est pas important. Ça ajoute à la véracité, à la fiabilité du texte de Luc. Matthieu aussi, lui, Matthieu, il s'adressait davantage aux Juifs, avec beaucoup de détails, coup par coup, et il s'efforçait de montrer que Jésus accomplissait les prophéties. Il supposait, il savait que ses lecteurs, les Juifs, avaient déjà une grande connaissance des textes de l'Ancien Testament et qu'il lui suffisait de montrer comment Jésus accomplissait les prophéties dont il était question pour les convaincre de l'authenticité de Jésus, du fait qu'il était le Fils de Dieu. Donc Luc et Matthieu, Luc c'était surtout pour les païens. Luc était un auteur, il avait il était grec, il s'exprimait très bien en grec, il expliquait l'évangile pour les païens de l'époque et pour les païens d'aujourd'hui, avec beaucoup force de détail. Tous les deux nous donnent beaucoup de détails sur la généalogie de Jésus, sur sa naissance. C'est pour ça que lorsque l'on parle de Noël, vendredi soir, on a lu des passages dans Luc. On n'a pas lu des passages dans Marc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de description de la naissance de Jésus dans Marc. Marc, c'est le reporter France Info. C'est le direct. Il ne s'intéresse qu'à l'action. Il décrit ce qui se passe. Le mot qui revient le plus souvent dans son évangile, c'est le mot « et puis ». « Et puis, voilà ce qui s'est passé. Et puis, il s'est passé telle chose. » Il décrit comme un reporter devant une télé qui fait un reportage en direct. Il nous parle de Jésus comme étant un serviteur. Et un serviteur, on se moque pas mal de savoir d'où il vient, quel était le nom de son grand-père et de son passé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de détails. Jean, lui, c'était le reporter qui se trouve dans l'hélicoptère. Jean, on appelle les trois premiers évangiles des évangiles synoptiques. C'est un mot savant qui veut dire simplement c'est une optique similaire. Parce qu'ils décrivent un peu les mêmes événements pour certains, on retrouve des descriptions. Jean, c'est des matériaux nouveaux avec plus de recul et surtout avec la volonté de montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Il veut montrer que Jésus, c'est l'homme venu du ciel. Et comme on disait, Jean 3,16, c'est la meilleure description de l'Évangile. C'est le résumé le plus puissant, le plus concis, le plus exact, le plus véridique. C'est du TNT, c'est explosif. Pour ça que si vous devez connaître un seul verset, lorsque vous témoignez, vous ne savez pas quoi dire, redites ce verset. Alors peut-être que vous n'allez pas dire « afin qu'il ne périsse point ». Qu'est-ce que tu veux dire avec une apparition point? Mettez-le dans le langage d'aujourd'hui avec vos mots. C'est incroyable comment Dieu il aime les hommes, tous les hommes. Je te dis moi, et il a donné, actualisez-le. C'est l'évangile résumé. C'est le concentré. C'est le c'est l'ADN, c'est rien que ça, c'est une semence qui a la vie en elle, qui peut révolutionner le monde. Suivant les versions, parce que les versions regroupent plus ou moins de passages d'écriture, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont inspirés, les versets, les chapitres ne sont pas inspirés. Mais dans la plupart des versions, il y a un peu plus de 31 000 versets, et si vous devez choisir le verset pour résumer la Bible, c'est Jean 3,16. Parce qu'il parle de l'amour de Dieu, et il parle d'abord de la quantité, du montant, de l'énormité de l'amour de Dieu pour nous, pour les hommes. Combien est-ce qu'il nous aime ? Il nous aime tant. Il nous aime tellement. Je te dis, moi, tellement il t'aime. Dieu, il t'aime tellement. On peut faire des différences. On va dire, ce problème est dur, si c'est un problème de maths. Mais ce problème, il est tellement dur que si tu n'as pas fait maths sup et maths spé, tu ne pourras pas le résoudre. Quand quelque chose est tellement quelque chose, ça veut dire que c'est beaucoup. On est d'accord ? Et tellement, ici, c'est connecté à la conséquence. Tellement il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tellement qu'il a donné la chose, plutôt la personne, la plus précieuse qui pouvait être donnée. Vous avez, j'espère, si vous n'avez pas fait cela ou reçu cela, on peut y remédier ce matin. Il reste des petits cadeaux de jeudi dernier. Est-ce que vous avez reçu des cadeaux à Noël ? Je remercie tous ceux qui m'en ont offert. Les cadeaux, c'est intéressant. Le premier titre des actualités de Google, c'est que le commerce des cadeaux recyclés est en plein boom aujourd'hui, hier. Sur eBay, sur Price Ministry, on revend les cadeaux qu'on a reçus et qu'on n'a pas trop aimés. Le dernier Houellebecq, prix Goncourt, si on n'a pas envie de le lire, et on sait que ça coûte cher, ces bouquins. Une bonne façon, c'est de les remettre en vente sur eBay. Vous pouvez récupérer vos coûts. Et il y a des cadeaux comme ça qu'on garde parce qu'on sait que la personne est... Il est possible qu'elle revienne à la maison et s'il n'y a pas le pot bizarre qu'elle vous a offert, elle risque d'être offensée. Et il y a cadeau et cadeau. Mais un cadeau, il va nous montrer, il va être une preuve d'amour que s'il a coûté quelque chose. Que ce soit... Des fois, ce n'est pas tellement l'argent, bien que ce soit une chose importante... Ce qui nous montre que nous donnons un cadeau avec amour, c'est le temps que nous mettons à penser à quel va être le bon cadeau. Et je sais que tous vous avez pris vos dispositions bien avant Noël et que le jour de Noël, vous n'étiez pas dans les magasins à courir pour trouver des idées. Je sais qu'il n'y a que moi à qui ça arrive. À moi et à pas mal de milliers de personnes, parce que dans les magasins, le 24, quelle foule! Et le plus drôle, c'est de voir et j'étais un de ceux-là, les gens qui cherchent à offrir un livre, sans avoir lu le livre, en lisant le résumé qui est au dos du livre, et en peut-être en comptant sur un livre du même auteur qui avait reçu un certain accueil positif. Mais bien souvent, les cadeaux qu'on reçoit, les cadeaux qu'on fait, c'est pas des cadeaux formidables, si on l'avoue. Mais le cadeau que Dieu nous fait à Noël, il n'y en a pas de plus beau, il n'y en a pas de plus grand possible. Et au point que, je reviens un peu à ce que nous avons étudié le mardi soir avec l'étude de Romains, il y a ce grand verset, on a vu que le chapitre 8, c'est vraiment un sommet de versets d'assurance, de vérité qui nous sont révélés. Et Paul nous dit, Dieu, le Père qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui par grâce? Si vous faites un superbe cadeau, généralement vous allez donner le sac d'emballage avec. Vous allez donner la garantie que les personnes vont pouvoir signer pour être assurées de remplacer l'appareil s'il y a une panne. Le cadeau que Dieu nous a fait en Jésus, c'est un cadeau qui couvre tous les cadeaux. Et si vous doutez que Dieu va vous donner les choses que vous désirez, les cadeaux que vous espéreriez, c'est que vous n'avez rien compris au cadeau qu'il vous a fait. Qui peut le plus, qui peut l'infiniment plus, peut le moins, peut le moins trivial et le moins important, le moins qui vous compte pour vous, tout ça c'est absolument promis, garanti dans ce cadeau. C'est qu'un cadeau qui avait beaucoup touché Nancy, c'était Sébastien qui avait ramassé sur la plage des petits bouts de verre et qui les avait collés sur une plaque de bois pour dire « I love you ». Il était pas là, il était parti, je sais plus trop où, mais il avait caché ce cadeau au fond d'un tiroir quelque part. Il avait appelé sa maman, il lui a dit, j'ai un cadeau pour toi, si tu vas dans l'armoire, dans deuxième tiroir, tu verras. Et c'était pas quelque chose qui lui avait coûté beaucoup d'argent, mais ça lui avait pris beaucoup de pensées, beaucoup de sentiments, beaucoup de temps, beaucoup de prévisions, et c'est un cadeau qui disait amour pour Nancy. Elle a toujours cette plaque, alors que peut-être elle a plus les beaux livres que je lui ai trouvés au dernier moment à la Fnac ou en 30 secondes parce que le magasin fermait, qu'il fallait quand même avoir quelque chose. Dieu nous a donné son Fils. Il nous l'a donné comme un bébé. Il aurait pu nous le donner comme un superman, un tout petit bébé qui ne nous intimide pas, duquel on peut s'approcher sans être intimidé. Ça, c'est la merveille. La quantité de son amour est telle qu'elle a débouché sur le plus grand cadeau possible, imaginable, au-delà de ce qu'on pouvait penser, dire ou penser ou espérer. On voit deuxièmement que l'objet de cet amour de Dieu, c'est le monde. Le monde, c'est-à-dire toute l'humanité. Toute l'humanité, et pourtant il est venu dans un monde qui était en rébellion contre lui. Un monde qui, 30 ans plus tard, allait le crucifier. Il n'a pas attendu que le monde se tourne vers lui pour venir. Il a aimé le premier. Jean dit dans 1 Jean 4, 19, « Nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. » Si nous pouvons avoir des sentiments d'amour les uns envers les autres, que nous ne soyons pas complètement égoïstes, il y a cet amour altruiste, cet amour qui se rapproche un peu de l'amour agapé, c'est parce que Dieu nous a donné l'exemple de se sacrifier pour l'autre, sans que l'autre vous aime. Au lieu de dire « Dieu a tant aimé le monde », vous pouvez lire « Dieu a tant aimé moi, Dieu m'a tant aimé. Parce que vous faites partie du monde. Même si vous êtes très spirituel, que vous ne voulez pas vous occuper des choses du monde, vous êtes de ces gens pour qui il est mort, pour qui il est. Dieu a donné son Fils unique. Ça, c'était à l'époque de Jean. Vous vous souvenez de cette discussion de Jésus avec Nicodème, ce chef religieux. C'était quelque chose de révolutionnaire. Si on avait demandé, si Jésus avait demandé à Nicodème s'il était sauvé, il ne lui demande pas, il va lui dire qu'il ne l'est pas tant qu'il ne l'a pas reçu. Il aurait dit, bien sûr, je suis juif, je suis même un des chefs religieux, un rabbin, un leader dans le Sanhédrin. Je suis quelqu'un de respecté, bien sûr que je suis sauvé. Mais Jésus lui dit, ça ne suffit pas, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe, ce n'est pas l'appartenance à une secte religieuse, ce n'est pas l'appartenance aux membres responsables de ce groupe qui te sauve. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème aurait bien aimé entendre « Dieu a tant aimé les Juifs qu'il a donné son Fils unique ». Et ça, c'est notre réflexe à tout. On est prêt à recevoir cet amour de Dieu, mais on n'est pas souvent prêt à le partager avec les autres, parce que on se dit qu'on est mieux que les autres. On aime la portée, l'étendue de ce salut, c'est tous les hommes, toutes les femmes. Pas seulement les gens qui viennent à Calvary. Pas seulement les gens qui vont dans une église évangélique. Pas seulement les protestants. Pas seulement les chrétiens. Pas seulement les membres des grandes religions monothéistes. L'islam, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Non, même les terroristes. Même vos ennemis. Souvent les chrétiens réfléchissent et disent « Mais je n'ai pas d'ennemis. » Si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous ne parlez pas de votre foi. Si vous parlez de votre confiance, de votre amour de Jésus, vous allez vous faire des ennemis. C'est garanti, c'est promis dans la Bible. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de résultats. Et tous les athées, tous les membres de ces sectes bizarres, les membres de ces mouvements d'influence, ces mouvements secrets, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les sectes, les animistes, tous, Jésus est venu pour eux. Dieu a tant aimé tous ces gens-là qu'il a donné son Fils. Est-ce que vous donneriez, si vous êtes parent, est-ce que vous donneriez votre enfant pour sauver quelqu'un? Franchement, si on me demandait de sacrifier Tonio pour sauver quelqu'un, sacrifier Sébastien pour sauver quelqu'un, je dirais non, il doit y avoir une meilleure solution, ou il doit y avoir autre chose. Je ne serais pas prêt à le faire, franchement. Maintenant, si on me disait, en fait, il y a quelqu'un qui a besoin d'un rein, et le rein de Tonio, il est parfait. On a fait les analyses. J'ai d'ailleurs un ami pasteur qui va donner un rein pour quelqu'un. Et ça, c'est vraiment une marque d'amour, parce qu'on sait qu'il y a des risques, et de vivre avec un seul rein, ça risque de limiter la façon dont vous pouvez vivre le reste de votre vie. Maintenant, si c'était donner un rein pour sauver son frère et qu'il soit d'accord, je serais peut-être prêt à le laisser faire. Pour un très bon ami qu'il connaît depuis longtemps et qui va mourir s'il ne lui fait pas ce cadeau, mais qui donne son rein pour aller sauver des terroristes quelque part en Afghanistan ou dans un je sais pas quel autre pays. Dieu a donné son Fils unique, pour tous les hommes qui le rejettent, qui le rejetteront, qui l'ont rejeté, et pour ceux qui l'ont accepté. Une chose formidable aussi, c'est que cet amour de Dieu, il s'est exprimé en action, en réalité. Ce n'est pas seulement un amour sentimental, un amour à l'eau de rose. Certains d'entre nous sont plus sentimentaux que d'autres. Je me rappelle quand on avait donné notre petit chat à une association parce qu'on ne pouvait pas le ramener à Paris, j'avais versé des grosses larmes. Et j'avais un bon ami de la famille qui me disait « Toi, t'es trop sentimental !» Mais ça ne compte pas d'être sentimental en amour. Le même Jean, 1 Jean 3,18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Dieu a aimé et il a donné. Ce n'est pas le tour d'avoir des sentiments, de dire des paroles « Oh, je vous aime !» d'envoyer des messages sur Facebook, de dire « I like you », d'envoyer des cartes postales. Non, c'est bien. être l'objet d'une méprise verbale. C'est bien d'exprimer, mais ça, s'il n'y a pas d'action concrète, autant se taire. Dieu a donné en expression de son amour. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9, 5 était déjà la prédiction, la prophétie dans l'Ancien Testament. Et il l'a donné en sacrifice. Ça lui a coûté beaucoup d'être séparé de lui, de lui faire porter tout le poids des péchés. Il est devenu péché à notre place. Et l'amour ne se manifeste réellement qu'avec des cadeaux. Et pas les cadeaux qui sont imposés par le calendrier à Noël, pour la Saint-Valentin, pour l'anniversaire. Je me parle à moi-même. Messieurs, prenez-en de la graine. Si vous êtes mariés ou si vous avez une fiancée, donnez des cadeaux. Pas seulement des mots, je t'aime, et quand ça changera, je te le dirai, t'en fais pas. Non, donner, manifester l'amour. Quelqu'un a dit, on peut donner sans aimer. Les entreprises le font. Elles donnent des cadeaux d'entreprise, elles connaissent même pas les gens. C'est bien, on reçoit un stylo avec le nom de la boucherie d'à côté, c'est pratique, mais c'est pas de l'amour. On sait que c'est de la promotion, c'est de la publicité. Dans l'ancien temps, on disait c'est de la réclame. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Amen. Si on aime vraiment, on va avoir le besoin, le désir de donner. Alors je vois, il y en a qui disent « Qu'est-ce qu'il m'a donné à Noël ? Il ne doit pas m'aimer beaucoup. » Non, il vous a donné sa vie si vous êtes marié avec la personne. Mais c'est vrai que il doit y avoir une expression concrète à l'amour. Qui reçoit cet amour ? Quel est le domaine, la portée ? Quiconque. Le meurtrier, le terroriste, la personne la plus haïssable sur la terre peut recevoir cet amour. Parce que Dieu aime le monde. Mais tout le monde ne bénéficie pas de cet amour tant qu'ils n'ont pas reçu le cadeau de Jésus-Christ, le cadeau donné par Dieu. Pour recevoir l'amour, il faut croire en lui. c'est vital, j'allais dire c'est crucial, c'est comme la crosse, crucifixion. C'est essentiel. Si l'autre ne reçoit pas l'amour, il n'y a pas de relation d'amour. Et peut-être que certains disent, oui, c'était mon cas, j'aimais cet homme, j'aimais cette femme, mais il ne m'aimait pas en retour. Dieu veut que nous recevions son amour. Il a fait le cadeau, ce n'est pas pour qu'on lui dise non merci. Il respecte le non merci de certains, de tous ceux qui disent non, mais il est tellement impatient que vous receviez le cadeau. Il est le père du fils prodigue qui chaque jour va voir si vous allez recevoir le cadeau, si vous allez revenir à lui par Jésus, si vous allez recevoir le cadeau de Jésus. Rien de plus terrible que des cœurs endurcis vis-à-vis de l'amour de Dieu. Tant que on n'a pas mis notre confiance, tant qu'on n'a pas cru, quiconque croit en lui, la croyance c'est plus qu'une adhésion intellectuelle. Je dis, oui, je suis d'accord, il doit y avoir quelque chose. Voltaire lui-même disait, il doit y avoir un horloger, la Bible dit que c'est Jésus. Bon, ben, on dit qu'il y a des raisons historiques de croire qu'il est venu, ben, j'y crois. Comme on croit en un parti politique ou une ligne de conduite. Non, ça doit être une confiance totale. Ça doit être une décision de dire « Maintenant, je suis prêt à tout mettre en balance par rapport à cet amour et à recevoir, à faire confiance à Jésus pour toute ma vie, pour tous mes projets, pour toutes mes difficultés, pour mes problèmes de santé, de relations, de travail, d'études. Je lui fais confiance. » Ça, c'est croire. C'est un peu comme quelqu'un qui disait « Vous n'avez pas cru à une chaise tant que vous n'êtes pas assis dans la chaise. » C'est vous laisser porter, c'est vous confier entièrement. Et on a eu derrière le sapin de Noël l'autre soir, il restait quelques cadeaux. Et c'est toujours triste un cadeau qui reste derrière un sapin. Soit parce qu'on l'a oublié, soit parce que la personne qui devait le recevoir n'était pas là. Et imaginez le cadeau de Jésus et qui reste derrière le sapin. Et les gens qui cherchent partout la satisfaction, la joie, la motivation de vivre. Et il y a ce cadeau qui est là. Quiconque, on dit mais c'est trop facile. Alors n'importe quel criminel... on peut vivre n'importe comment. Non, Jésus, on l'a dit en étudiant Romains, une fois qu'on reçoit son amour, il nous transforme. C'est pas quelque chose à l'eau de rose, c'est quelque chose de puissant qui va transformer votre vie. Après la justification, le fait que vous êtes déclaré juste par Dieu, vient la sanctification, la transformation à l'image de Jésus. On voit aussi le pourquoi de cet amour, quelle est l'intention de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ça, c'est un sujet dont on ne parle jamais à Noël, l'enfer. L'enfer, un endroit dont il est pleinement question dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, mais... Jésus a parlé plus d'enfer que du paradis. C'est une réalité. Il y a beaucoup de passages dans les évangiles. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » C'est un endroit de souffrance perpétuelle. Le ver ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas. C'est un endroit préparé pour le diable. C'est un endroit physique réel. Et Dieu ne veut pas que nous allions là-bas. Si la loi s'applique, si nous faisons confiance à la loi pour nous justifier et que nous ne sommes pas justifiés, que nous avons péché, alors nous finirons là-bas. Et aujourd'hui, on voit des cartes de Noël, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. C'est bien. Joie pour le monde. C'est bien. Joyeux Noël. Joyeuse fête. Si on n'est pas très chrétien, ou si on ne trouve pas la bonne carte postale, on devrait avoir des cartes postales qui disent « Sauvés de l'enfer par Noël ». Sauvés de l'enfer par le cadeau de Dieu. Ce cadeau, ce n'est pas un cadeau qui va améliorer notre vie, comme une nouvelle moulinette électrique, ou un nouveau portable avec davantage de fonctions que tel autre portable, tel super ordinateur qui fait aussi peut faire toaster du pain. Non, c'est un cadeau vital. Si vous n'avez pas, vous allez périr. La loi déclare que nous sommes coupables de péché et devant Dieu, nous ne pourrons pas nous tenir, nous serons condamnés à être loin de lui pour l'éternité, séparés de lui en enfer. Luc 3, 18 nous dit que, pour revenir à un passage qui est plus près des passages traditionnels de Noël, on voit comment Jean-Baptiste, c'est lui qui parlait et qui insultait tous les chefs religieux. Il les traitait de race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, Luc 3, 8, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham de ces pierres. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'était pas le gars qui cherchait à être politiquement correct. Ne cherchons pas à être politiquement corrects lorsque nous parlons aux gens de ces choses vitales. Luc nous raconte que, nous décrit donc plus loin les paroles que Jean-Baptiste annonçait aux incrédules ou aux religieux qui venaient l'entourer, parlant de Dieu. Il a son van à la main, son panier à la main, puis il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste parlait de l'enfer. Et, verset 18, Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Parler de l'enfer, ça fait partie de la bonne nouvelle. On a tendance à balayer ça sous le tapis et on va parler du petit enfant Jésus qui est mignon tout plein, qui vous aime. Non, il nous aime parce qu'il a donné la chose la plus précieuse pour nous sauver de l'enfer, afin que nous ne périssions pas. Ça, on est entre chrétiens, on comprend ça. On veut la vie après la mort, on dit ça, c'est ce dont il est question. On veut tous, en principe, la vie après la mort. Mais est-ce que vous voulez aussi la vie dans la vie? C'est-à-dire de la vraie vie dans votre vie de maintenant? Ou est-ce que vous vous contentez de végéter? De ne pas risquer des choses qui sont grandes, qui en valent la peine? Est-ce que vous vous contentez d'une petite existence? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne dépérisse pas. C'est la même idée. Il y a la vie éternelle, mais il y a aussi la vraie vie, la vie abondante de Jean 10:10. C'est un verset dont il est facile de se rappeler l'adresse, Jean 10:10. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que vous vous levez lundi matin en disant « qu'est-ce que je m'embête dans cette existence ?» Ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre travail parce que votre patron est pénible, mais si vous vous confiez de plus en plus à Jésus, il va vous donner une vie qui a du sens, il va vous donner une vie qui est faite d'aventures, de joie, de peine, mais une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je suis en train de lire un très bon livre par un auteur américain, John Piper, qui s'appelle « Ne gaspillez pas votre vie, ne gâchez pas votre vie ». Il y a un proverbe qui dit « Une seule vie à vivre et tout ce qui n'est pas fait pour Jésus ne vaudra rien au jour du jugement ». Il est venu pour que nous ne périssions pas. Et puis finalement, on voit la durée de cet amour. On sait que l'amour humain, il est faible. C'est Shakespeare qui disait « N'est pas amour l'amour qui varie ». Un amour qui est fonction des circonstances. Je t'aime parce que tu es gentil avec moi ou parce que tu es belle en ce moment, mais quand tu vas avoir ton opération et qu'on va te raser la tête, je ne sais plus si je vais t'aimer autant. Ce n'est pas de l'amour. Et cet amour, c'est pour l'éternité. C'est la vie éternelle. On est là, on s'emballe pour des choses, on a des émotions parce que quelqu'un nous passe, parce que la ligne d'à côté va plus vite que ma ligne de paiement à la FNAC. Et cette vie, c'est une, j'aime bien dire, une goutte d'eau par rapport à l'océan de l'éternité. Et on va tout mettre, on va tout investir en se disant, oh, après j'y penserai. Je penserai à Dieu quand je serai vieux. On n'est jamais assez vieux, assez jeune pour penser à Dieu plutôt. Cet amour, il faut le recevoir en faisant confiance à Jésus. Quelqu'un disait dans Jean 3,16, il y a sept merveilles. Il y a Dieu, c'est la plus haute autorité. Il a tant aimé le monde, c'est la plus noble motivation. Faire les choses par amour, c'est la plus belle des motivations, bien sûr, qu'il a donné son Fils unique. Encore une fois, c'est le plus grand cadeau possible. Afin que quiconque, la plus large invitation, tous les hommes à venir, passer, il les a aimés. La plus grande invitation, afin que quiconque, croit en lui, le mode d'emploi le plus facile. Il aurait pu dire, afin que quiconque termine un doctorat de troisième cycle en études de théologie et de langage ancien, puisse avoir la vie éternelle. Non, il suffit de croire. Un enfant, nos enfants peuvent le faire. Mais nous qui sommes cultivés, nous qui avons appris à raisonner avec notre esprit critique, on n'est pas fichu de recevoir ce cadeau parce qu'on n'est pas fichu de croire simplement. Ne périsse pas la plus grande délivrance, on vient d'en parler, mais qu'il ait la vie éternelle, la plus riche des possessions. Ça, c'est aussi Noël. Croyez en Jésus, faites-lui confiance entièrement pour votre vie, aujourd'hui, et vous ne périrez pas, vous n'irez pas en enfer. Je peux vous garantir qu'il y a peu d'églises où le mot est prononcé aujourd'hui ou pendant cette saison de Noël. On ne met pas l'enfer et Noël dans le même sac du Père Noël. Mais Dieu nous a donné son Fils pour qu'on n'aille pas là-bas. Et vous aurez une vie éternelle. On aspire tous à cette vie. On a du mal à se dire c'est déjà 2011, dans quelques jours, une année de plus, tchoc. Alors quand on en a une vingtaine, on n'en a fait que tchoc, 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 tchoc. On peut le répéter, mais quand on en a 50, c'est déjà plus long à dire qu'on en a 60 et 80 et 90. Et puis un jour, on ne fait plus tchoc. On fait tchoc, mais plus avec un crayon. Recevez cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu de Jean 3,16. Amen.